Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
L'exploration de l'espace lointain, appelée aussi exploration de l'espace profond, c'est l'exploration de l'espace au sein du système solaire ou encore à de plus grandes distances. Il s'agit d'une branche de l'astronomie, l'astronautique, et de la technologie spatiale qui consiste à explorer des régions lointaines de l'espace. L'exploration spatiale est réalisée par des vols spatiaux habités, ça c'est l'astronautique dans l'espace lointain, ainsi que par des vols spatiaux robotisés. Les voyages lointains dans l'espace sont motivés par des ambitions tout à fait diverses. L'exploration, hein, bien sûr, et la recherche scientifique. Ces voyages sont indispensables pour aller étudier in situ les planètes, les astéroïdes, pour approfondir nos connaissances sur la formation du système solaire, sur l'évolution des planètes, ou encore sur la présence potentielle de vie extraterrestre. Les lunes glacées de Jupiter comme Europe ou de Saturne comme Encelade, par exemple, sont des cibles de choix pour la recherche de vie extraterrestre en raison des océans qui sont en dessous de leur couche glacée. Les missions vers ces lunes nécessitent des technologies pour percer la glace épaisse, pour explorer les océans sous-jacents, etc., ainsi que des instruments pour détecter des signes de vie microbienne. Alors évidemment, il n'est pas tout à fait question d'aller atterrir sur Jupiter. Vous le savez parce que je vous l'ai déjà raconté, ce n'est pas possible. Jupiter n'a pas de surface dure et Saturne, c'est pareil. Ce sont des géantes gazeuses. Mais par contre, nous avons deux plus proches voisines qui sont les prochaines grandes étapes de l'exploration spatiale, la Lune et Mars. La colonisation de Mars, c'est l'un des objectifs les plus ambitieux de l'exploration spatiale. L'établissement d'une base permanente sur Mars permettrait d'assurer la survie de l'humanité en cas de catastrophe sur Terre. Alors, je vous rassure, on n'est pas dans un film américain, c'est vraiment des projections qui existent pour les scientifiques. La Lune est aussi dans le viseur des grandes agences spatiales et pourrait servir de base avancée pour l'exploration du système solaire. Elle offre une plateforme pour tester des technologies, des stratégies avant de s'aventurer plus loin. L'installation d'infrastructures durables sur la Lune nécessitera des solutions pour extraire et utiliser les ressources locales, comme l'eau glacée par exemple qui se trouve dans les cratères polaires. Car jusqu'à présent, la sonde spatiale ayant décollé de la Terre et qui est allée le plus loin dans l'espace, c'est Voyager 1. Le 5 décembre 2011, elle a atteint les limites du système solaire et elle est entrée dans l'espace interstellaire le 25 août 2012. Une exploration plus importante de l'espace n'est malheureusement pas possible dans l'immédiat, principalement dû aux limitations concernant l'avancée technologique des moteurs des vaisseaux spatiaux. Les technologies les plus susceptibles de faire avancer ces recherches, ce sont l'antimatière, l'énergie nucléaire et la propulsion grâce à l'énergie des faisceaux. Cette dernière technologie semble être la plus porteuse pour ce qui est de l'exploration spatiale, puisqu'elle utilise les lois de la physique et des technologies déjà développées pour d'autres usages. L'idée, en gros, c'est d'utiliser des faisceaux de lumière, donc des photons, pour propulser un vaisseau spatial en réfléchissant ses photos sur une très grande voile ultra légère. En gros, je ne sais pas si vous avez connu le dessin animé Albator, mais il avait un vaisseau spatial avec des grandes voiles, et bien on est à peu près là-dedans. Lorsque les photons frappent la voile, ils transfèrent leur mouvement, poussant ainsi le vaisseau vers l'avant. Bien que chaque photon n'ait qu'une toute petite quantité de matière et de mouvement, la grande quantité de photons, produite par exemple dans un faisceau laser, pourrait générer une poussée suffisamment significative. Alors il y a plusieurs déclinaisons, hein, faisceau laser, plasma polarisé. Cette technologie présente de nombreux avantages. D'abord, elle est bien plus efficace que les moteurs chimiques actuels, qui doivent emporter leur carburant. En effet, les systèmes de propulsion par faisceau d'énergie peuvent recevoir une poussée continue sans nécessiter de grandes quantités de carburant embarqué. On peut également atteindre des vitesses bien supérieures, essentielles pour les missions un petit peu lointaines. De plus, contrairement aux carburants chimiques, le faisceau de lumière limite l'usure et la dégradation des composants du vaisseau spatial. Par contre, les systèmes de faisceaux d'énergie, en particulier les lasers, nécessitent des sources d'énergie extrêmement puissantes et des technologies de focalisation très précises. Maintenir l'alignement précis du faisceau sur le vaisseau spatial sur de longues distances est techniquement complexe. Et puis la mise en place d'une infrastructure au sol ou en orbite pour générer et diriger des faisceaux d'énergie représente un défi logistique et financier tout à fait significatif. Mais il existe déjà des initiatives comme Breakthrough Starshot, par exemple, qui montrent un intérêt croissant et des investissements dans ces technologies. Si les défis technologiques peuvent être surmontés, ces systèmes pourraient ouvrir la voie à des missions interstellaires, à l'exploration rapide du système solaire et à des nouvelles possibilités pour l'humanité dans l'espace. Alors, quand on parle d'exploration lointaine, on parle surtout de quitter l'orbite basse de la Terre dans laquelle la plupart de la présence humaine se fait actuellement. et ça implique de relever le défi de la protection des astronautes contre les radiations cosmiques, qui sont principalement venues du Soleil. Aux orbites basses, c'est la magnétosphère qui protège les astronautes, de la même façon qu'elle protège tous les humains restés au sol. Mais dans l'espace, de nombreux rayons peuvent être problématiques pour l'être humain. Les émissions solaires, d'abord, dues à l'activité solaire, qui peut être plus ou moins intense, mais qui répand dans tout le système solaire des flux de protons, d'électrons et aussi de noyaux plus lourds. Et il y a aussi le rayonnement cosmique galactique qui provient de l'extérieur du système solaire, qui est généré par des événements astrophysiques très gros tels que les supernovas par exemple. Alors il est constitué principalement d'hydrogène mais aussi d'hélium. Et il y a aussi les rayons cosmiques anisotropes qui proviennent des sources tout à fait spécifiques comme les pulsars ou les trous noirs. Ce sont des particules très énergétiques et qu'on peut difficilement prévoir. Ces rayons ionisants ont plusieurs effets sur l'organisme humain. D'abord, ils peuvent casser les brins d'ADN, entraînant des mutations, donc des cancers, ou autres maladies dégénératives. Les tissus à renouvellement rapide, comme ceux du système digestif par exemple, sont particulièrement vulnérables. Des études montrent que les radiations peuvent altérer les fonctions cognitives et augmenter les risques de troubles neurodégénératifs. Il y a aussi des effets aigus, directement consécutifs à une exposition sur une courte durée, comme des nausées, des vomissements, évidemment des brûlures sur la peau, de la fatigue et, dans des cas extrêmes, la mort. Les radiations peuvent aussi affaiblir le système immunitaire, rendant les astronomes plus susceptibles aux infections. Évidemment, la protection des astronautes est primordiale. Plusieurs solutions sont envisagées. D'abord, les boucliers. Alors, on peut utiliser des boucliers physiques avec des matériaux riches en hydrogène, comme l'eau ou le plastique, qui absorbent bien les radiations. On peut aussi penser à des boucliers magnétiques. On génère un champ magnétique pour détourner les particules chargées, et donc reproduire l'effet de la magnétosphère terrestre. Des projets comme le concept de bouclier de plasma sont en exploration. On peut aussi utiliser des champs électrostatiques pour dévier les particules chargées. La conception des vaisseaux peut aussi être orientée pour protéger au maximum les habitants, avec des zones de protection renforcées où les astronautes peuvent venir se réfugier lors des pics de radiation solaire par exemple. Une technique simple consiste à avoir des protocoles tout à fait stricts concernant le temps passé dans les différentes zones du vaisseau pour limiter l'exposition. Alors ça, c'est difficilement faisable pour de longtemps dans l'espace de plusieurs mois ou de plusieurs années. Il existe aussi les radiosensibilisateurs, des médicaments pour réduire les dommages causés par les radiations. Des recherches sont en cours pour développer des composés protecteurs pour l'ADN par exemple. Bien choisir quand et où passent les vaisseaux spatiaux est aussi important. On peut ainsi minimiser l'exposition aux radiations solaires en évitant les périodes de haute activité solaire et aussi choisir des trajectoires qui minimisent le temps passé dans les zones à haute radiation comme par exemple la ceinture de Van Allen. Les radiations ne sont pas le seul défi à relever pour envisager des voyages spatiaux lointains, mais même proches, hein, vers Mars par exemple. Pour pouvoir vivre plusieurs années dans l'espace, il faut régler le sujet des ressources en énergie, en nourriture, en eau, en oxygène, ainsi que la gestion des déchets. Alors prenons ces ressources une par une. D'abord, l'énergie. Les missions interstellaires nécessitent des sources d'énergie stables et durables pour des périodes de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Les panneaux solaires, efficaces pour des missions intra-système solaire, deviennent tout à fait inefficaces à grande distance. On peut alors penser à des réacteurs nucléaires ou à des générateurs radioisotopiques. C'est des options, mais il pose des défis en termes de sécurité, de gestion des déchets nucléaires et de durée de vie des réacteurs. Une autre solution pourrait être, quand elle sera maîtrisée, la fusion nucléaire. On pourrait fournir une source d'énergie quasiment illimitée avec ça. Une autre théorie qui a été évoquée dans le film Interstellar, c'est l'antimatière. Théoriquement, l'annihilation de la matière et de l'antimatière pourrait fournir une énergie extrêmement dense. Bon là, on est très très loin de la production industrielle. Parlons maintenant nourriture. Stocker suffisamment de nourriture pour des voyages de plusieurs décennies, c'est complètement impraticable en termes de volume et de poids. Les astronautes ont besoin d'une alimentation équilibrée pour rester en bonne santé sur le long terme, avec une variété suffisante pour éviter les carences et le syndrome d'aversion alimentaire quand on mange toujours la même chose. Alors évidemment, le plus simple, c'est de produire la nourriture sur place, dans l'espace. Le développement de systèmes agricoles à bord pour cultiver des plantes, des champignons, élever des animaux en microgravité ou en gravité artificielle. Des techniques de culture de cellules qui pourraient produire de la viande artificielle ou d'autres éléments nutritifs sont étudiés. Comme pour la nourriture, stocker suffisamment d'eau pour les voyages interstellaires est complètement impraticable. Le recyclage de l'eau, qu'on peut récupérer sous forme d'urine, de sueur ou de condensation, est crucial. Mais les systèmes actuels ont des taux de récupération largement imparfaits et nécessitent une maintenance tout à fait régulière. L'amélioration des techniques de récupération et de recyclage de l'eau est un point clé à régler avant de pouvoir envisager des voyages longs dans l'espace. Il serait aussi possible d'extraire l'eau de la glace d'astéroïdes, par exemple, ou de planètes que le voyage pourrait croiser en route. Une autre ressource à laquelle on ne pense pas souvent, ce sont les pièces de rechange pour les systèmes. Les systèmes de support de vie, de propulsion, de communication. Ils doivent être extrêmement fiables. Leurs pannes peuvent être catastrophiques. Évidemment, emporter suffisamment de pièces de rechange pour chaque éventualité est complètement impossible. Mais il pourrait être possible d'utiliser l'impression 3D pour fabriquer des pièces de rechange à la demande, à partir des matières premières qu'on aurait stockées. Et bien sûr, comme sur Terre, les astronautes vont générer aussi des déchets. Et ces déchets, humains, alimentaires, industriels, doivent être gérés pour éviter la contamination et les problèmes de santé. Ces déchets doivent au maximum être recyclés et revalorisés, comme par exemple en utilisant des technologies de compostage pour les déchets organiques, pour produire du biogaz ou des fertilisants. Mais les défis techniques et logistiques ne sont que la partie visible de l'iceberg. La vraie épreuve pourrait bien être celle de l'esprit humain, soumis à des conditions extrêmes de confinement et d'isolement. Car s'embarquer dans des voyages de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, c'est pas tout à fait comme prendre le TGV. Vivre pendant des années dans un espace restreint, coupé de la Terre et de la vie quotidienne, représente un défi colossal pour la santé mentale des astronautes. Le sentiment de solitude, l'absence de la famille, des amis, la monotonie peuvent mener à des troubles psychologiques tels que l'anxiété, la dépression, le stress. La perte du rythme naturel de la vie sur Terre peut également désorienter et affecter le bien-être mental. Lors d'un voyage vers Mars, par exemple, les communications avec la Terre peuvent subir des retards allant jusqu'à 20 minutes. Et encore, on est dans la proche banlieue terrestre. Ce décalage rend impossible les conversations en temps réel et peut amplifier le sentiment d'isolement. Les astronautes doivent prendre des décisions autonomes, sans pouvoir se reposer instantanément sur le soutien de leurs équipes au sol. Évidemment, l'interaction quotidienne avec un petit groupe de personnes dans un environnement clos peut entraîner des tensions et des conflits. La dynamique de groupe est souvent le succès d'une mission. Tous ces enjeux et ces défis à relever peuvent aussi avoir des avantages pour la vie sur Terre. Car la recherche pour les voyages spatiaux de longue durée stimule l'innovation. Les technologies développées pour survivre et fonctionner dans l'espace peuvent avoir des applications sur Terre, comme l'amélioration des systèmes de recyclage, la production d'énergie, les technologies médicales. L'exploration spatiale peut aussi stimuler l'économie mondiale en créant de nouveaux marchés, des emplois, des opportunités d'investissement. Les industries aérospatiales, technologiques et énergétiques pourraient bien bénéficier de ces avancées.